はくらいの
La révolution de velours était tchécoslovaque. Nous entendrons donc dans cette émission spéciale 20e anniversaire un tchèque et un slovaque, pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de deux des principaux leaders de cette révolution de velours qui a mis fin au régime communiste, le dramaturge tchèque Václav Havel et l'acteur slovaque Milan Kniazko. Et puis on terminera cette émission en musique avec Marta Kubišová, l'interprète d'une chanson qui marquera le début et la fin de ce qu'on appelle la normalisation de la Tchécoslovaquie, une période qui s'étend de 1968, après l'écrasement du printemps de Prague, à la révolution pacifique de 1989.
Sdělovací prostředky rozšířily včera večer zprávu, podle které jeden z účastníků páteční demonstrace v Praze zemřel na následky zranění.
17 novembre 1989, une semaine après la chute du mur de Berlin, une manifestation étudiante est violemment réprimée par les forces de l'ordre dans les rues de Prague. Cette date, aujourd'hui officiellement désignée jour de la lutte pour la liberté et la démocratie dans le calendrier tchèque, marque le début de la fin du régime totalitaire. Václav Havel, encore dissident à cette date, sera élu président à peine plus d'un mois plus tard.
Před 20 lety se československá sněhová koule v podobě jednoho masakru studentů proměnila v lavinu.
Il y a 20 ans, en Tchécoslovaquie, une boule de neige sous la forme de la répression féroce d'une manifestation d'étudiants s'est muée en avalanche. Et tout le système totalitaire en fut ébranlé, s'effondrant tel un château de cartes. Cela, il faut l'attribuer à bon nombre de facteurs, parmi lesquels la profonde crise interne dans laquelle était plongé le régime, les événements dans les pays voisins ou une conjoncture internationale favorable. Quoi qu'il en soit, nous fûmes étonnés par la rapidité et la facilité de ce retournement. L'étonnement n'était donc plus l'apanage des journalistes occidentaux, mais aussi le nôtre. Nous ne nous attendions pas à ce que le changement soit si rapide et si aisé. Face à lui, il s'est avéré que les dissidents étaient aussi perplexes que les journalistes et politologues de l'Ouest. À notre tour, nous nous montrions incapables de prendre la juste mesure de la situation, de saisir les événements sous-jacents, tant au niveau du pouvoir qu'au sein de la société, et en définitive, de prévoir leurs conséquences éventuelles. Nous cherchions à nous comporter en homme libre, à dire la vérité, à apporter un témoignage sur la situation dans notre pays. Nous n'aspirions pas au pouvoir. Il ne nous était même pas venu à l'esprit que les autorités puissent nous le céder brusquement dans sa totalité. À nous qui, de notre point de vue, n'étions que des porte-parole de l'opinion publique.
Když jsme se mohli cítit maximálně jen mluvčími veřejnosti, bude najednou a tak kompletně předána moc ve státě.
C'était la Tchécoslovaquie, donc Prague était la ville principale et la grande majorité français ne savait pas du tout que la Tchécoslovaquie est un pays composé de deux nations.
L'acteur slovaque Milan Kniazko a pris la tête du mouvement démocratique à Bratislava.
Le 17 novembre, il n'y avait pas le massacre, mais il y avait déjà les jeunes dans les rues. Il y avait déjà les gens qui se sont rassemblés, qui demandaient les dialogues. Déjà plusieurs jours ou semaines avant, c'était la situation était assez vivante, je veux dire. Il y avait plusieurs publications de dissidents à Bratislava, comme par exemple Bratislava à haute voix, c'est une publication où les auteurs ont parlé sur la situation en Tchécoslovaquie, sur la situation écologique, sur la situation politique, sociale, etc. Les jeunes de cette époque se vivement intéressaient sur dialogue avec les autorités. Les autorités refusaient le dialogue en disant que s'ils veulent discuter, donc dans les écoles et pas dans les rues, etc., etc., qu'il ne faut pas déstabiliser le socialisme. C'était des arguments de ce genre. 17 novembre, j'étais à Bratislava, mais 18 novembre, j'étais à Prague. J'étais à Prague parce que chaque année, il y avait à cette époque, ça s'appelait le concert d'acteurs. Et c'était le monologue choisi d'une dizaine d'acteurs de la Tchécoslovaquie qui ont présenté ces monologues là, à Smetanova Signe Obecního domu. Je ne sais pas le traduire en français, mais c'est...
La maison ça, municipale.
Voilà, à quelques pas d'ici. Donc j'étais parmi ces acteurs. Ce qui est important pour moi, que le 18 novembre 89, le premier spectacle de ce concert d'acteurs commençait à 16h dans l'après-midi. Mais à partir de 14h, il y avait une réunion des directeurs de théâtre pragois. Et ils ont décidé vers 4h de se mettre en grève. Donc ils sont venus une demi-heure après notre commencement du spectacle, à peu près à 4h30 dans l'après-midi, en nous disant ces décisions. Donc après quelques minutes de discussion, nous avons décidé déjà d'arrêter ce spectacle. Donc c'était le premier spectacle en Tchécoslovaquie qui était arrêté, parce qu'il commençait à 16h dans l'après-midi. Normalement, commence le soir, et nous avons à 4h après-midi, et puis à 8h, le deuxième. Mais le deuxième ne se déroulait plus, bien sûr, parce que tout le spectacle à Prague était ce soir déjà arrêté. Les théâtres se sont mis en grève. Et je suis revenu à Bratislava le lendemain, le jour après, c'est-à-dire le 19, aussitôt le théâtre à Bratislava ne jouait plus. Et déjà, il y avait les gens déjà sur les places. Et nous avons commencé à s'organiser. Nous avons créé finalement ce Verejnost proti násiliu, ou public contre les violences. Voilà. Il faut dire que je n'étais pas un dissident. J'étais un acteur qui a eu son métier, qui ne s'intéressait pas tellement à la politique, parce que c'était clair que la politique, pour moi, c'est le Parti communiste, donc aucun intérêt. Je n'étais jamais communiste, j'étais anticommuniste depuis mon enfance, parce que mon père était un prisonnier politique, donc pour moi, c'était clair. À partir de 5 ans de mon âge, j'étais anticommuniste avant que je savais ce que ça veut dire le communisme. Mais... parce que je l'ai senti dans ma famille. Quand Václav, j'ai connu pourtant Václav Havel depuis des dizaines d'années avant, parce que Václav Havel était dans le milieu théâtral et du film. Donc je le rencontrais en 1972 à Prague déjà. On s'est connu, mais on ne s'est pas fréquenté. On ne s'est pas rencontré souvent. C'est seulement quand il a écrit quelques phrases, ce pamphlet, donc je l'ai signé, c'est en juin 89. Et quand j'ai ressenti le changement dans le milieu du théâtre, du film, etc., parce que j'ai signé quelques phrases, donc j'ai signé encore un pamphlet pour la libération des prisonniers politiques. C'était les gens qui ont été mis en prison parce qu'ils ont mis les fleurs sur les places où étaient assassinés les enfants pendant l'occupation 68. Donc j'ai ressenti encore plus le changement dans mon milieu. Et à l'époque, on est déjà en septembre 89, il y avait une semaine du film tchécoslovaque à Madrid et Barcelone. Et il ne me laissait pas sortir avec cette délégation, même si j'ai eu deux films. Parmi les 7 films, il y avait deux films où je jouais le rôle principal. Donc je voulais voir le ministre de la Culture, slovaque. Il a refusé de se rencontrer avec moi. Donc j'ai rendu le titre d'artiste mérité aux États, enfin au ministère. Et c'était en octobre. Et c'est là où j'étais vraiment le dissident. Mais dissident non organisé. C'est seulement... Bon, j'ai connu Václav Havel, j'ai connu plusieurs personnes. Je connais déjà Jan Budaj, plusieurs personnes comme ça. Mais je n'ai jamais travaillé, si vous voulez, dans un mouvement de dissident, un certain temps après, avant, pardon. Donc j'étais un dissident, mais solitaire, si vous voulez.
C'était la première fois qu'un acteur, je crois, rendait.
Oui. Non seulement en Tchécoslovaquie, mais dans le pacte Varsovie. C'est après que j'ai appris que personne n'a jamais rendu ce titre.
S rozpaky jsme moc přijali, neboť nebylo jiné alternativy. A v téže chvíli se stala zajímavá věc.
Ce pouvoir, nous l'avons accepté avec embarras. Or, au même moment, il s'est produit une chose intéressante. Bon nombre de ceux qui, pendant des années, avaient marché au pas sans maudire, de même que bon nombre de ceux qui avaient jugé nos efforts gratuits, se sont mis à nous reprocher d'être mal préparés à jouer notre rôle dans l'histoire. Ils nous demandaient « Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore rédigé une nouvelle constitution démocratique ? Pourquoi ne vous êtes-vous pas mis d'accord sur une nouvelle loi électorale ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas prévu des lois prêtes à l'emploi, y compris celles qui conféreraient un cadre juridique aux privatisations gigantesques qui attendent notre pays ? Comment vous n'avez pas préparé le programme des différents partis politiques qui doivent être créés pour qu'un système politique pluraliste puisse fonctionner correctement ? Aujourd'hui encore, d'aucuns montent en épingle tout ce que nous aurions dû faire et n'avons pas fait, de même que tout ce que nous n'aurions pas dû faire et que nous avons fait.
Upozorňováni na všechno, co jsme měli udělat a neudělali, či neměli udělat a udělali.
La foule était venue nombreuse pour saluer le nouveau président que la population a littéralement poussé au pouvoir. Václav Havel a été élu à l'unanimité président de la Tchécoslovaquie. Ses premières paroles ont été pour le peuple.
Le 29 décembre 1989, Václav Havel est élu président par le Parlement tchécoslovaque, toujours composé de députés communistes et présidé par Alexander Dubček, symbole du printemps de Prague, finalement écarté de la magistrature suprême pour des raisons qu'explique l'acteur Milan Kniazko.
Finalement, c'était nous qui avons décidé que, ou bien aussi nous, que Václav Havel soit président. Parce que c'était la décision qu'on a prise à Prague et à Bratislava. Parce que si on ne l'avait pas pris à Bratislava, Václav Havel ne sera jamais président. Il était absolument nécessaire d'être d'accord. Nous avions décidé avec nos amis tchèques, ensemble, librement, que entre Václav Havel et Dubček, que le choix, pour plusieurs raisons, est meilleur pour Václav Havel comme Alexander Dubček. Et c'était moi qui devait lui dire cette nouvelle. Il ne va pas être le président. Une fois chez lui, deuxième fois au Parlement slovaque, Jan Budaj et moi, définitivement, disaient à Alexander Dubček qu'il ne va pas être le président. Il est vrai qu'il pleurait. Oui. Bon, il était très émotif, en général. C'était pas facile, c'était mon voisin. À 50 mètres, j'habitais 150 mètres de lui. Je l'ai connu depuis des dizaines d'années, enfin pas très proche, mais je l'ai connu. J'ai connu ses fils. C'était moi qui a amené sur la tribune à Bratislava. On était toujours un pays occupé par l'armée soviétique. À l'époque de 68, Alexander Dubček était le premier secrétaire du Parti communiste. Et le changement de 68, autrement, c'est une certaine vent de libération, un certain petit changement de régime communiste qu'on appelait le printemps pragois, c'est-à-dire le socialisme avec le visage humain. C'était pour nous l'histoire. En 89, il ne s'agissait pas de socialisme avec le visage humain, mais d'une destruction du socialisme et du communisme. Parce que nous étions absolument sûrs que le socialisme ou le communisme ne peut pas avoir le visage humain. Ou bien il y a le communisme et le socialisme, ou bien le visage humain. Les deux ensemble Ça n'existe pas, ça n'existe jamais, ça ne va jamais exister, parce que dès que le communisme commence à avoir le visage humain, c'est le début de son destruction. Parce que c'est un régime déshumain.
Inhumain.
Inhumain, pardon. Donc, c'était la raison principale que Václav Havel n'avait pas le passé communiste. Et il est difficile pour moi de dire ce que je dis maintenant, mais Dubček n'a pas suffisamment refusé cette occupation. Il se soumit. Il n'a jamais eu « non, je ne suis pas d'accord, c'est l'occupation. Et je suis contre, soyez contre. » Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il était contre ce régime, d'accord. Mais peu à peu, ils l'ont assimilé, ils l'ont détruit.
Ils l'ont nommé ambassadeur.
Ambassadeur en Turquie, mais enfin.
Quels arguments avez-vous employés avec lui, avec Dubček? C'est ça que vous lui avez dit ou vous avez essayé d'être un peu plus soft?
Non, plus soft, bien sûr, bien sûr. Il avait plusieurs noms sur le candidat du président à l'époque. Vous êtes certainement au courant qu'il y avait même moi. Non, c'est pas. Ça durait seulement 24 heures. Et c'est moi, finalement, qui a dit ici à Prague que je ne veux pas présenter ma candidature, mais je soutiens Václav Havel. Donc, il était très important de se mettre d'accord parce que Dubček était beaucoup plus populaire en Tchécoslovaquie à l'époque que Václav Havel. C'est ça ce qui est important. Si vous demandiez ici en Venceslas, les gens qui partaient dans les rues, qui vous voulez le président, c'était de 10 demandaient, personne, de 10 personnes demandaient, c'était peut-être 8 pour Dubček. C'était clair. Et si vous avez demandé qui est Václav Havel, il ne connaissait pas. À Tchécade, aux usines, ou en Slovaquie, il ne savait pas qui est-ce, finalement. Ce n'est qu'après qu'on a fait un grand voyage sur la Slovaquie, sur l'usine de métallurgie, etc., etc., où je l'accompagnais finalement, présenté, c'est Václav Havel. Parce que aujourd'hui, c'est peut-être drôle qu'on dit ça, mais à l'époque, c'était comme ça. C'était comme ça. Václav Havel était très connu dans les milieux théâtrales, écrivains, intellectuels, pragois. Mais pourcentuellement, c'était. J'ose même pas dire, mais c'était très peu.
Nikdo neví, kdy nějaká nahodilá sněhová koule dá do pohybu celou lavinu.
Personne n'aurait pu prédire si une boule de neige fortuite ne saurait un jour provoquer une avalanche. Cet état d'esprit n'était pas, bien évidemment, le seul ni même le principal moteur de notre comportement d'alors. Mais tel était notre sentiment. La leçon que l'on peut en tirer est évidente. On ne devrait jamais présumer d'avoir saisi toutes les lois historiques et par conséquent d'être en mesure de prédire ce qui va se produire.
A že jsme tudíž schopni bez zbytku předvídat, co přijde.
C'était Václav Havel, le dissident devenu président de la République après la révolution de velours. Et juste avant, vous avez pu entendre le témoignage de l'acteur slovaque Milan Kniažko. Comme promis, on termine cette émission en musique. Une chanson marque le début et la fin de ce qu'on appelle la normalisation en Tchécoslovaquie. Modlitba pro Martu, c'est le titre, prière pour Marta en français. Son interprète, Marta Kubišová, fut interdite de scène pendant 20 ans, quelques temps après l'écrasement du printemps de Prague en 1968. Novembre 1989, c'est un comeback extraordinaire et l'un des moments les plus émouvants de la révolution de velours. Marta Kubišová est sur le balcon, devenu célèbre sur la place Venceslas, et entonne a cappella la prière pour Marta. Elle a raconté ses souvenirs au micro de Radio Prague.
Ta révolution, no tak ono to šlo celkem dost rychle,
La révolution, tout a été très vite. L'acteur Andrzej Vetchy est venu me chercher en m'annonçant qu'il devait me servir de garde du corps. Il m'a emmené jusqu'à l'immeuble Melandrich et tout d'un coup, je me suis retrouvée sur le balcon. Ils m'ont dit, ce serait bien de chanter ta petite prière a cappella. J'ai chanté tant bien que mal un extrait. Je n'ai pas pleuré, mais je n'étais pas au mieux, je peux vous le dire. Quand j'ai vu la foule immense sur la place, je me suis dit, Aucune chanteuse n'a eu un tel comeback.
Tak jsem si najednou řekla, no tak takovýhle comeback žádná zpěvačka na světě neměla. Právě ty štáby zahraniční.
Même certains journalistes étrangers pleuraient, sans comprendre les paroles, et se doutaient que je chantais quelque chose d'émouvant.
Takže oni věděli, že zpívám asi něco dojemného. No.
Zrova závy znáš, strach a zvár, ty až pominou, ať už pominou, teď když má ztracená vláda věcí zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
No tak ještě dneska mám úzkost.
Encore aujourd'hui, quand j'y repense, c'est l'angoisse. Heureusement que je ne dois plus chanter a cappella, parce que si vous vous plantez, c'est terrible. La prière pour Martha a été écrite à l'origine pour une série télévisée. L'auteur Petr Rada a utilisé deux vers de Comenius qui sont sur le monument de Jan Hus, qui est sur la place de la vieille ville. Des vers qui, en 1968, à l'époque où les chars russes circulaient dans les rues et tiraient, a marqué les gens. Dans la rue, on me disait « Quelle belle chanson! Est-ce qu'on l'entendra encore ?» Et moi, je répondais « Si ça marche, oui !»
Uslyšíme ještě, já jsem říkala, no když se to povede, tak jo.
Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Mais il a fallu attendre une vingtaine d'années pour qu'en 1989, Marta Kubišová puisse enfin chanter sa prière. C'était il y a exactement 20 ans. Que la paix règne dans cette contrée, que la méchanceté, la jalousie, l'animosité, la peur et la haine disparaissent. C'est sur ces paroles de la chanson de Marta Kubišová que se termine cette émission spéciale 17 novembre. Retrouvez-nous sur internet au www.radio.cz. Au revoir, Nasredanov.
Navrátí z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí se tu svou modlitba má ta ať promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak nás. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba závisá, strach a zvár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Modlitba má, ať promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak nás. krajinou. Slova závistá, strach a svátí,